France Musique. Les trésors de France Musique, Françoise Monteil.
Bienvenue à tous. Nous accueillons aujourd'hui et demain dans nos trésors la soprano André Esposito, que Gaëlle Gallic avait rencontré en 1994 pour l'émission Mémoire retrouvée. Au cours de cet entretien portrait, André Esposito nous dira comment elle a attrapé le virus du chant dès le plus jeune âge et comment elle est entrée dans la carrière lyrique. Formée au conservatoire d'Alger, non loin de sa ville natale, André Esposito rejoint le conservatoire de Paris où elle suit l'enseignement de Charles Panzera et de Louis Noguera. En 1959, c'est dans le rôle de Violetta, dans la Traviata de Verdi, qu'elle entre dans la troupe de l'Opéra de Paris. Ce sont tous ces souvenirs qu'André Esposito confiait à Gaëlle Gallic. Nous étions sur l'antenne de France Musique en juillet 1994.
Elle fera partie de ces artistes lyriques à la fin des années 50 à avoir la grande chance d'appartenir à ce que l'on appelait à l'époque les troupes. Rien à voir avec un quelconque substantif militaire, mais il s'agit de l'un des termes extraits du jargon artistique qui a permis à bien des carrières de s'épanouir. Entre parenthèses, ce qui manque cruellement aujourd'hui en France au dire de tous ces artistes, mais ça c'est un autre débat. Soprano française, née le 7 février 1934, elle enseigne aujourd'hui au Conservatoire de Marseille. C'est ce matin un portrait de Madame André Esposito de l'Opéra que nous vous proposons.
Les grands seigneurs ont seul désert si résolu avec cette douceur. Seulement ne pas rire, non,
On est chanteur, mais il y en a certains qui, par le travail et la volonté, le deviennent. Parce qu'il faut personnalité, il faut être un gagneur, un premier, voyez-vous. Il faut être musicien, il faut être intelligent, au minimum. Et surtout, ce qu'il faut, c'est être travailleur. Il faut un travail acharné. Et quand il manque ces qualités autour, ça fait rien. Vous pouvez avoir la plus belle voix du monde, vous ne ferez rien, à mon avis. Mais surtout, ce qu'il faut, c'est avoir un esprit curieux, chercher toujours. Et jamais penser que, c'est, quand on a un certain bagage, ne jamais penser que c'est, tout, que c'est prêt, que c'est acquis. Il faut toujours, toujours essayer d'aller vers le mieux. Parce que si on reste sur un acquis, on recule. La voix, c'est le miracle. Il y a un miracle parce que il y a des gens qui étudient la voix, qui savent comment ça marche, de A jusqu'à Z, quels sont les muscles qui se mettent en mouvement, quels sont tout. Et puis, il manque l'étincelle. Moi, j'ai eu des phoniatres, des grands phoniatres qui ont fait des conférences sur la voix. Ils connaissaient tout de la voix. Ben, je dis, maintenant, faites-moi un son. Rien. C'est le miracle. La voix, c'est le miracle. Quand on ouvre la bouche et puis qu'on sort un joli son, je sais pas, c'est un don de Dieu, c'est un miracle. La cantatrice, ça doit être une femme humble. Quand on rentre dans le chant, pour moi, on rentre comme dans les ordres. C'est un sacerdoce. On est au service de la musique. On est au service du public. Et on ne doit jamais se faire une grosse tête en disant « c'est arrivé, je suis Madame Untel ». Rien, on n'est rien du tout. Le succès part vite. C'est-à-dire qu'on travaille beaucoup, on commence à être connu et avoir une certaine notoriété, presque quand on est arrivé au sommet de ses possibilités. Et puis après, quand tout le monde vous connaît, c'est qu'on commence à dégringoler.
Tout.
Moi, j'étais enfant et déjà à l'âge de 6 ans, je chantais. J'étais un rossignol, je chantais. Et j'écoutais des disques, je chantais sur les disques, je chantais n'importe quoi, je chantais. Et puis on disait, alors dans tous les mariages, dans toutes les communions, on me faisait chanter. Il fallait, allez, chante-nous quelque chose. Et c'est comme ça que c'est démarré. Après, comme j'avais cette jolie voix, et dès l'âge de 14 ans, j'ai commencé à prendre des cours. J'ai commencé très jeune. Quand mon père ne voulait pas que je chante dans ma famille, c'était mal vu. C'était les filles perdues qui étaient artistes. Hein. Oh là là. Et puis non, j'avais le virus. Et alors, je me souviens, j'ai voulu rentrer au conservatoire d'Alger, puisque je suis algéroise. Et j'avais 16 ans et il fallait avoir 18 ans pour avoir la possibilité d'être inscrite. Et je me souviens, je voulais tellement chanter que je suis allée toute seule à la préfecture demander une dérogation pour pouvoir rentrer à 16 ans. Je voulais chanter. Et ils m'ont accepté, et je suis restée là 2 ans, et après, à 18 ans, j'ai eu mon premier prix, à l'époque où on rentre, à l'âge où on devrait rentrer. Et là-dessus, après, j'ai eu la chance de faire un concours, c'était le Grand Prix de la ville d'Alger, et monsieur Delvincourt, qui était le directeur du Conservatoire de Paris, avait été invité comme président du jury, et quand il m'a entendu, il a dit « mais il faut l'envoyer chez nous ». Et c'est à ce moment-là que mon père, tout d'un coup, s'est dit « bon, peut-être qu'elle a raison, peut-être ». Et on a essayé, c'est comme ça que je suis partie à Paris. Mais au démarrage, il n'y avait rien qui... Bon, on aimait un peu la musique dans la famille, mais enfin, il n'y avait personne qui avait chanté, personne qui avait fait de carrière artistique, c'est comme ça. C'est pour ça que je dis que c'est un miracle, le don de la voix. Pourquoi pas mes sœurs et moi? Pourquoi moi? Je veux dire des bêtises, mon mari, quand je raconte des choses comme ça, me dit que je suis folle, mais enfin, ça ne fait rien, vous couperez si vous en avez envie. Je crois à la réincarnation. Et je suis persuadée que quand des gens arrivent et qu'ils savent jouer du piano ou d'un instrument, ou qu'ils savent chanter, et que j'ai des fois des élèves, j'ai pas besoin de leur dire 10 fois. Je leur dis une fois, et puis hop, ça s'enclenche tout seul, comme si tout d'un coup dans la mémoire, il y avait quelque chose qui se remettait à fonctionner. Moi, j'ai eu la chance de tomber chez Panzera, qui était un grand interprète, un grand concertiste. C'était un homme qui m'a appris à aimer Kadish de Ravel, avec lequel j'avais eu mon premier prix au Conservatoire de Paris, qui m'a appris à aimer Fauré, qui m'a appris à aimer Bach, Debussy, et qui avait une vision en profondeur de la musique, et pas seulement la voix et le bel canto. Le bel canto, ce n'est pas à dédaigner. C'est beau. D'ailleurs, j'en ai fait beaucoup. J'ai fait une carrière d'opéra. Je ne peux pas dénigrer. Mais bien souvent, on oublie tout ce répertoire qui est un répertoire, comment dirais-je, plus raffiné. Et c'est pour ça qu'actuellement, ça me plaît d'être professeur, parce que je retrouve et j'essaye d'inculquer à mes élèves cet amour de cette musique qui est pas souvent en France, hélas, pas suffisamment joué. Patinage, tu vois que tu prennes ton envol comme un avion. Ce que je veux, c'est que quand tu montes les sons les uns après les autres, tu te poses dessus et que tu les prépares d'avance. Tu comprends? Et chaque fois, et tu feras attention, chaque fois que tu attaques une phrase, écoute bien l'accompagnement pour chaque fois te réaccorder. Thank you.
Les trésors de France Musique.
Je n'ai pas l'impression d'avoir mal vécu ma vie. J'ai voulu chanter. J'ai chanté. J'ai voulu faire des premiers plans, des premiers rôles, des premiers grands rôles. J'ai chanté que des premiers grands rôles. Je me souviens quand j'étais au conservatoire, c'était ma dernière année de conservatoire. J'étais dans la classe d'art lyrique de Louis Noguera. Louis Noguera qui a fait une carrière à l'opéra, très belle, qui était un être extraordinaire, qui aimait beaucoup les jeunes, qui aimait beaucoup ses élèves, et qui un jour m'a dit « Marguerite », il appelait toutes les filles de la classe, il appelait Marguerite. « Marguerite, je vais t'emmener chanter à Metz. » Et j'ai chanté pour la première fois le juif polonais. Je ne me rappelle plus qui est le compositeur. C'est ça, exactement mon premier grand rôle. Et puis après, le rôle qui a marqué, ça a été Juliette, de Roméo et Juliette, de Gounod. Et la première fois que j'ai... Ce sont des rôles qui m'ont vraiment frappée, d'ailleurs. Ce sont des rôles que j'ai beaucoup aimé chanter. Et la première fois que j'ai chanté à l'Opéra de Paris, ça a été La Traviata. J'avais 26 ans. Je me souviens, je tournais un petit peu en province. Et j'avais déjà chanté cette Traviata, quelques fois. Et puis, vous savez, dans le métier, ça se sait. Hein. Il y a une espèce de téléphone arabe, et on sait quand il y a des bons spectacles qui se font, quand il y a un jeune qui débute, on sait. Tout se sait. Et un jour, l'opéra m'a demandé si je voulais venir faire une représentation audition. À l'époque, c'était Madame Jeannine Michaud qui était titulaire du rôle, et il cherchait des gens pour éventuellement, petit à petit, leur succéder. Et on est venu me demander si je voulais accepter de faire cette Traviata. J'ai accepté. Et je me souviens, ça a été une épreuve terrible. Parce que, bon, j'ai chanté avec des artistes chevronnés qui étaient titulaires du rôle depuis longtemps, des autres rôles. On m'a fait répéter dans un studio qui n'était pas plus grand que cette salle où nous sommes. On m'a mis des sièges et des tables pour figurer le décor. J'ai répété avec piano. Il y avait le chef d'orchestre quand même qui me disait « Surtout, petit, ne t'inquiète pas, tu me suis. » Je n'ai pas répété sur la scène, je n'ai pas répété avec les costumes, ni avec les chœurs. Et la veille du spectacle, mes parents sont arrivés d'Alger, ils se sont précipités pour voir leur fille jouer son premier spectacle à l'Opéra de Paris. Et alors, dans la nuit qui a précédé le spectacle, j'ai eu 39 de fièvre. On a vite fait venir le docteur, il disait « Mais je ne comprends pas, elle n'a rien. » Elle n'a rien. Alors, ils m'ont donné des pénicillines ou je ne sais pas quoi pour essayer de me faire tomber cette fièvre. C'était une fièvre nerveuse, sûrement. Et je me souviens, on m'a mis le costume sur le dos et on m'a ouvert, le rideau s'est ouvert. D'abord, le cadre de l'Opéra de Paris, du Palais Garnier, c'est irremplaçable, c'est merveilleux. Vous avez des cadres de théâtre comme ça qui sont extraordinaires. J'ai vu cette salle immense. C'était grand, c'était grand. Et le chef d'orchestre, loin, loin, loin. Il était petit comme ça. Et moi, là, au milieu, toute seule, dans ma robe à cerclette, je me disais, mais je vais pas en sortir une. Qu'est-ce que je vais faire? Et alors, pendant tout ce premier acte, pendant le Brindisi, il y avait les chœurs autour qui ne me connaissaient pas. Et qui se disaient, je voyais dans leurs yeux, qu'est-ce qu'elle va faire, la petite? Et alors, j'allais à eux. Et je trinquais avec eux. Ils me regardaient, ils me faisaient un petit signe de tête amical, comme s'ils voulaient me dire « Bonjour madame, heureux de vous voir parmi... » Le trac. Et j'ai chanté cette Traviata. Je suis arrivée au bout. Ça a été un beau succès, puisque j'ai été engagée après dans la troupe, et que j'ai fait, pendant 15 ans, j'ai fait presque toutes les Traviatas de l'Opéra de Paris.
Je puis
J'ai eu des chefs qui m'ont marqué, chacun avec leurs qualités différentes. Mais je ne peux pas dire que j'ai eu un chef qui m'a marqué. J'ai eu des grands chefs qui m'ont frappé. J'ai beaucoup aimé chanter avec Rosenthal, qui était aussi un de nos grands chefs. J'ai beaucoup aimé chanter avec Pierre Dervaux, qui était un chef permanent de l'Opéra de Paris, qui était un chef précis, un chef sur lequel les chanteurs pouvaient compter. J'ai beaucoup aimé chanter avec Georges Prêtre, c'était autre chose. Chaque chef a des qualités et arrive à vous sortir de vous-même. Vous avez aussi un grand chef avec lequel j'ai bien aimé chanter, c'était Georges Sébastien. C'était un être plus d'élan qui arrivait à sortir de vous des comment dire, des fois c'était pas toujours précis au point de vue rythme, mais alors quand vous chantiez avec lui, on sortait de soi-même. J'ai eu la chance au début, quand j'ai débuté à la radio, de chanter avec Eugène Bigot. Eugène Bigot, qui était un grand chef d'orchestre, avec lequel d'ailleurs j'ai enregistré un Saint-Saëns, Friné, qui est un opéra en un acte magnifique qui existe dans les archives de la radio et qui est superbe. Et c'était Bigot qui dirigeait Friné de Saint-Saëns. C'est un bel ouvrage, il y a un rôle de soprane magnifique.
J'errai sur le rivage, rêvant de vivre ton doux esclavage, près d'un temple où tu fais séjour, au rêve de beauté, je te sentais.
Vous chantiez avec Rosenthal, Bigot, Prêtre. On faisait de la musique avec beaucoup plus de... C'était plus méticuleux. C'est autre chose. C'est autre chose. C'était tous des grands chefs. Et je me permettrai de faire une parenthèse. Je trouve qu'à l'heure actuelle, la France abandonne beaucoup les chefs d'orchestre français. La France abandonne les chefs d'orchestre français et les chanteurs français. Et ça, je suis navrée parce que nous avons des grands chefs, des grands metteurs en scène, des bons chanteurs. Et on ne les laisse pas s'exprimer, on ne leur ouvre aucune porte. Et je trouve que culturellement, la France s'appauvrit. Et nous jouons de moins en moins notre répertoire. Quand il est joué des fois par des gens qui ne connaissent pas toute la finesse de notre langue française et de notre musique française. Nous sommes une civilisation raffinée et nous sommes en train de perdre ça. Et je regrette parce que des grands chefs français, il n'y en a plus. C'est bien, c'est très bien qu'il y ait un apport d'étrangers parce que nous devons échanger. Nous devons, la vie artistique, mondialement, internationalement, ça devrait être un échange. Mais malheureusement, il y a échange pour recevoir, mais il n'y a pas échange pour qu'il y ait l'équivalent dans les pays étrangers. Les Français, nous sommes en train de mourir. Et ça, j'ai toujours défendu notre patrimoine, et je le dis d'une façon, comment dirais-je, très, très forte. Si nous ne relevons pas la tête et si nous ne nous défendons pas, dans 20 ans, nous serons morts. C'est très grave. Parce que vous n'allez pas me dire qu'en France, tout d'un coup, il n'y a plus. Pourquoi n'y aurait-il plus de chefs d'orchestre? Mais on ne leur donne plus la possibilité de s'exprimer. Et ça, c'est dommage. Et c'est pour ça que des maisons comme l'opéra et l'opéra comique sont très importantes parce qu'elles permettent à des talents de s'exprimer et d'éclore. Si nous ne faisons que du théâtre en recevant des gens chez nous, nous n'aurons plus bientôt plus de culture française musicale.
Alain Vanzo et André Esposito dans le final de Roméo et Juliette, l'opéra de Gounod, avec l'orchestre lyrique de la Radio-Télévision française sous la baguette de Pierre-Michel Lecomte. Ainsi se referme le premier volet de l'entretien que Gaël Le Gallic avait enregistré avec André Esposito en 1994, dont vous pourrez suivre demain la seconde partie. Avant de nous quitter, je vous propose d'écouter André Esposito dans l'un des nombreux rôles qu'elle a incarné à l'opéra, celui de Leïla dans Les Pêcheurs de Perles de Georges Bizet, dont voici un extrait du deuxième acte.
Seul lieu désert où règne le ciel.
André Esposito interprétait l'air de Leila dans l'acte 2 des Pêcheurs de Perles de Bizet avec l'orchestre de chambre de l'ORTF que dirigeait Pierre Dervaux en 1966. Ainsi s'achèvent nos Trésors du jour, réalisés par Béatrice Trichet, avec la collaboration des documentalistes de l'INA. Retrouvez toutes les archives de France Musique en vous abonnant au podcast sur le site radiofrance.fr et via l'appli Radio France.
À réécouter sur francemusique.fr.